VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 17h30 en temps universel, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 17 août 2017. John Lydon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, drame en République démocratique du Congo. Près de 40 personnes ont été tuées hier dans un glissement de terrain. La Sierra Leone enterre ses morts. Une semaine de deuil national a été décrétée par le président Ernest Bai Koroma. Ici aux États-Unis, les condamnations se multiplient après les incidents du week-end à Charlottesville où une contre-manifestante de 32 ans a été tuée.
Les questions raciales sont à l'origine même du fondement de la naissance de la nation américaine.
Et puis nous retrouverons Nicolas Pinault pour les sports et Eric Malirakiza pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, un glissement de terrain a fait 40 morts hier dans le nord-est du pays. Un village de pêcheurs sur la rive occidentale du lac Albert en Ituri a été englouti. Jacques Aristide.
Des pans d'une montagne se sont affaissés sur ce camp de pêcheurs dans la localité de Tora après de fortes pluies, d'après Pacific Keta, vice-gouverneur de la province de l'Ituri. 4 rescapés ont été admis à l'hôpital de Chomia, dont des pans Tora. La pêche sur le lac Albert est l'une des principales activités économiques en Ituri, région frontalière de l'Ouganda. Selon M. Keta, le même jour, l'effondrement de la mine d'or de Makala a causé la mort de 2 personnes qui y opéraient clandestinement dans une localité voisine de Walendupiti. La RDC a connu dans le passé d'autres glissements de terrain meurtriers. En mai 2010, une coulée de boue qui a traversé le village de Kibiriga dans l'est du pays avait fait 19 morts et 27 disparus. En février 2002, une cinquantaine de personnes avaient trouvé la mort dans une coulée de boue et de pierre provoquée par de fortes pluies à Uvira dans le sud Kivu.
Toujours en RDC, des enquêteurs de l'ONU chargés d'élucider le meurtre de 2 experts de l'organisation en mars dans le Kasaï jugent que des investigations complémentaires sont nécessaires pour identifier formellement les auteurs de ces crimes, selon le secrétaire général des Nations Unies. La Sierra Leone enterre ses morts. Le président Ernest Bai Koroma a décrété une semaine de deuil national après des inondations qui ont fait plusieurs centaines de morts. Le point avec Solange Niamoulissa.
Les premières inhumations se sont déroulées lors d'une cérémonie en présence du président Koroma. Ravagés par le chagrin et la colère après la disparition de leurs proches, emportés par des coulées de boue, les Sierra Leone se posent des questions. De nombreux corps n'ont pas encore été identifiés. Les autorités avaient donné jusqu'à mercredi soir aux familles pour venir identifier leurs proches à la morgue centrale de la ville. Les chiffres donnés jusqu'ici évoquent plus de 300 morts et 600 disparus, mais le bilan définitif pourrait s'alourdir. Les habitants et experts critiquent l'inefficacité des autorités à endiguer la déforestation et l'urbanisme sauvage, considérés comme des facteurs qui ont amplifié les effets de la catastrophe. Le pays se remet à peine d'une épidémie de fièvre Ebola.
Les familles des victimes de l'attaque du restaurant Aziz Istanbul de Ouagadougou ont procédé aujourd'hui à la levée des corps à la morgue de l'hôpital de Bogodougou, en périphérie de la capitale burkinabé. 18 personnes, dont 10 burkinabés, ont péri dimanche soir sous les balles de 2 assaillants présumés djihadistes alors qu'elles dînaient dans ce café-restaurant à l'aile de la principale avenue de la ville. Entre 150 et 200 proches des victimes étaient réunis dans une atmosphère de recueillement dans la cour de la morgue. Le premier ministre congolais Clément Mwamba a présenté la démission de son gouvernement. Démission acceptée, indique un communiqué publié par la présidence. La démission du gouvernement intervient moins de 15 jours après la large victoire aux élections législatives du parti du président Denis Sassou Nguesso. La première audience du procès en appel du journaliste camerounais Ahmed Abba, condamné à 10 ans de prison pour blanchiment d'actes de terrorisme qui devait se tenir aujourd'hui à Yaoundé, a finalement été annulé. Un comité de soutien regroupant des artistes, des personnalités et des journalistes avait demandé hier la libération de M. Abba. Au Sénégal, le mouvement Yanamar lance une plainte citoyenne contre le gouvernement. Ce mouvement citoyen et des organisations de défense des droits de l'homme ont décidé d'ouvrir un contentieux entre l'État du Sénégal et les Sénégalais qui ont été empêchés de voter. Les précisions de Sedina Bagaye.
Nous avons estimé qu'il y a un préjudice que les Sénégalais ont subi et maintenant il faudrait réparer ce préjudice et comment nous allons suivre la Cour de justice de la CEDEAO, donc qui, comme je l'ai dit, a une compétence en matière de violation des droits humains.
Le mouvement citoyen Yanamar reproche à l'État du Sénégal une mauvaise organisation des élections législatives du 30 juillet 2017. D'après eux, plusieurs milliers de Sénégalais ont été privés du droit constitutionnel de vote à cause de la non-délivrance des cartes d'électeurs dans les délais. Ils affirment également que des citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales n'ont pas pu retrouver leur nom sur les fichiers. Autant de manquements qui ont poussé Yanamar à sortir de sa réserve afin de déposer une plainte auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Pour le mouvement citoyen, ce contentieux va ouvrir une nouvelle phase dans l'histoire car il va permettre aux organisations comme elle de mener des actions civiles contraignantes contre l'État pour le respect des droits humains et civiques. Yanamar compte ainsi mener un combat pour les citoyens qui n'ont pas pu voter et ceux qui ont été omis sur le fichier électoral. Reste à savoir si les Sénégalais sont toujours aussi réceptifs au message de ce mouvement qui a largement contribué à l'affaiblissement de Wade jusqu'à son départ du pouvoir en 2012. Sedina Bagaye, à Dakar, pour VOA Afrique.
Le gouvernement et les syndicats ivoiriens ont signé aujourd'hui à Abidjan un accord visant à instaurer une trêve sociale de 5 ans après la grève des fonctionnaires qui avait paralysé en janvier l'administration publique du pays. Les deux parties sont également tombées d'accord sur le paiement des stocks d'arriérés d'un montant global de plus de 249 milliards de francs CFA à près de 130 000 travailleurs, soit environ 80% des effectifs de la fonction publique. Le chef du gouvernement ivoirien a toutefois averti que le non-respect d'une des clauses de l'accord pourrait impliquer sa rupture tacite. Au Kenya, plusieurs missions d'observation des élections du 8 août dernier exhortent la Commission électorale nationale à publier au plus vite l'intégralité des procès-verbaux des 40 883 bureaux de vote indispensables pour corroborer les résultats officiels de la présidentielle contestés par l'opposition. Le nombre de Sud-Soudanais ayant trouvé refuge en Ouganda, voisin pour fuir la guerre civile dans leur pays, a dépassé le million. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Pour qui cette crise ne semble plus près de finir. Le HCR estime à 674 millions de dollars pour cette seule année ses besoins pour aider les réfugiés d'Ouganda, mais n'a pour l'instant reçu qu'un cinquième de cette somme. La victime présumée de l'épouse du président zimbabwéen Robert Mugabe, soupçonnée de coups et blessures en Afrique du Sud, s'est vue offrir de l'argent pour classer l'affaire, a affirmé aujourd'hui l'avocat de la jeune femme. Grace Mugabe, épouse du président zimbabwéen, est accusée d'avoir agressé dimanche Gabrielle Engels, une mannequin de 20 ans qui se trouvait dans le même hôtel qu'elle, dans un quartier huppé de Johannesburg. La jeune femme a déposé plainte pour coups et blessures. Elle n'a pas pris la parole publiquement ce jeudi. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a légèrement remanié le gouvernement. Les ministres de l'Industrie, du Commerce et de l'Habitat ont été remerciés 48 heures après le remplacement du Premier ministre. Des oulémas tunisiens ont rejeté jeudi la proposition du président Kaïd Essebsi d'instaurer l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage, la jugeant contraire aux préceptes de l'islam et dangereuse pour la société tunisienne. Les femmes héritent en général de la moitié de ce qui revient aux hommes, comme le prévoit le Coran. M. Kaïd Essebsi a aussi demandé au gouvernement de retirer une circulaire datant de 1973 et empêchant le mariage des Tunisiens musulmans avec des non-musulmans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les réactions se poursuivent après les incidents du week-end à Charlottesville en Virginie, où une manifestation d'extrême droite a tourné au drame avec la mort d'une contre-manifestante de 32 ans. Des chefs de l'armée aux politiciens, les condamnations se multiplient. Abdourahmane Dia.
le plus haut gradé de l'armée américaine en visite à Pékin, a fermement condamné le racisme et l'intolérance, s'associant à la dénonciation d'autres responsables militaires. Le chef de la marine, l'amiral John Richardson, a déclaré dès samedi, jour des événements de Charlottesville, que l'US Navy s'opposerait toujours à la haine et à l'intolérance. Plusieurs leaders politiques, démocrates et républicains, ont aussi dénoncé le racisme et la montée de l'extrême droite. Ces dénonciations sont en porte-à-faux avec les propos du président américain Donald Trump, qui a renvoyé dos à dos les groupuscules suprémacistes blancs et les manifestants antiracistes. Dans un nouveau tweet ce matin, le locataire de la Maison-Blanche a estimé que le démantèlement des statues des chefs confédérés, qui étaient opposés à l'abolition de l'esclavage, déchirait une partie de la culture américaine.
En Espagne, une camionnette a percuté la foule sur l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant au moins 2 morts et plusieurs blessés, a indiqué la police de Catalogne dans le nord-est du pays. La zone a été fermée par un cordon de sécurité et 5 ambulances et une vingtaine de policiers se trouvaient sur place. Nous y reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions. Entre 1200 et 3000 Européens ayant vécu ou combattu avec l'organisation djihadiste État islamique en Irak et en Syrie pourraient revenir en Europe selon un rapport d'experts qui appelle au pays à se concentrer pour préparer le retour de ses revenants. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Banque africaine de développement s'est beaucoup investie dans le secteur des transports sur le continent. En 50 ans d'existence, la BAD a libéré 30 milliards de dollars pour plus de 450 projets. C'est notamment le bitumage de plus de 40 000 km de route, la modernisation et l'agrandissement de 16 ports et l'appui financier à 30 aéroports. Le Maroc, la Tunisie, le Kenya, la Tanzanie et l'Éthiopie en sont les grands bénéficiaires. La CEDEAO n'aura pas de monnaie unique en 2020 comme prévu. Cette communauté devra encore attendre entre 7 et 10 ans. Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO, a annoncé un sommet en octobre prochain pour définir les dispositions à prendre. Au Sénégal, les petites et moyennes entreprises enregistrent un faible chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 milliards de francs CFA. D'après Idrissa Diabira, directeur de l'Agence pour le développement et l'encadrement des PME, la plupart de ces entreprises sont dans l'informel et n'ont pas accès au marché public et au crédit bancaire.
Nicolas Pinot est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par la liste du Togo qui a été dévoilée pour les prochains matchs amicaux.
Oui, le sélectionneur du Togo, Claude Leroy, a convoqué 23 joueurs en vue des matchs amicaux contre le Niger le 31 août prochain et le Malawi le 4 septembre. Leroy a convoqué Steve Lawson pour la première fois et 2 joueurs locaux, le gardien Abochi Dové et le défenseur Burama Issifou. Ils vont eux aussi honorer leur première sélection. Absent en juin, Wame Dové et Mathieu Dosévi font leur retour.
Zidane en piste pour le titre de meilleur entraîneur FIFA.
L'entraîneur du Real Madrid figure parmi les 12 techniciens en lice pour le titre. Avec le Real, Zidane a décroché une deuxième Ligue des Champions consécutive et le titre de champion d'Espagne la saison dernière. Les autres candidats sont l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, ou encore Carlo Ancelotti pour le Bayern et Antonio Conte pour Chelsea.
Et puis hier, nouveau titre pour Zidane, Nicolas.
Déjà vainqueur 3 en Catalogne, le Real Madrid a aisément remporté hier la Supercoupe d'Espagne après un nouveau succès contre le Barça, 2-0 à Santiago Bernabéu. Les buteurs, Asensio et Benzema. Encore une décima pour le Real Madrid après la 10e Ligue des Champions emportée en 2014. Les Merengues se sont adjugés la 10e Supercoupe d'Espagne de leur histoire.
Toujours en Espagne, Luis Suarez absent 1 mois.
L'attaquant uruguayen du FC Barcelone blessé en Supercoupe hier va manquer au moins 4 semaines de compétition. C'est un nouveau coup dur pour les Blaugrana. Un examen a révélé que le joueur souffrait des ligaments du genou droit.
Transfert, Kevin Prince-Boateng peut être de retour en Allemagne.
Oui, l'Eintracht Francfort a confirmé son intérêt pour accueillir l'international ghanéen Kevin Prince-Boateng. 30 ans, il a quitté, vous le savez, mercredi son club espagnol de Las Palmas pour des raisons personnelles. Boateng, polyvalent sur les différents postes offensifs et notamment passé par les clubs allemands du Hertha Berlin ou encore Dortmund ou Schalke 04.
Enfin, suspension confirmée pour Frankie Frédéric.
La suspension à titre provisoire de l'ancien sprinter namibien de son poste de membre du conseil de la Fédération internationale d'athlétisme a été confirmée par l'IAAF qui a rejeté l'appel du Namibien. Le journal Le Monde avait avancé des soupçons de corruption et un paiement de près de 300 000 dollars versé sur son compte le jour même de l'attribution à la ville de Rio des Jeux Olympiques 2016 par le Comité international olympique. C'était le 2 octobre 2009 à Copenhague.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, cap à présent au dossier du jour. Et on commence par les États-Unis, où le président Donald Trump a indiqué ce matin qu'il n'était pas un raciste, mais a plaidé pour le maintien des statues et monuments de leaders confédérés qui étaient opposés à l'abolition de l'esclavage. Le débat sur le racisme fait rage ici aux États-Unis. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint ici à Washington le docteur Marilyn Sefok de l'université Howard.
Les questions raciales sont à l'origine même du fondement de la naissance de la nation américaine. Donc ce ne sont pas des questions qui peuvent être évacuées de façon très rapide. Ce sont des questions qui demeurent avec les citoyens américains tant que ces questions ne seront pas confrontées de façon réelle.
Alors, beaucoup de blancs qui ne sont pas forcément de l'extrême droite semblent dire que la gauche exagère quand il s'agit du racisme. Pensez-vous qu'ils peuvent avoir raison ou que c'est plutôt une gêne de parler publiquement de cette question du racisme?
Je pense qu'il s'agit davantage là d'une gêne parce qu'il y a beaucoup qui sont d'accord avec le fait que le racisme perdure, mais ils ont peur que les futures générations de blancs grandissent avec un sentiment de culpabilité. Or, il ne s'agit pas là d'infliger aux générations à venir un sentiment de culpabilité, mais par contre de construire un avenir pour vivre ensemble beaucoup plus sain.
Est-ce que c'est une Amérique plus diversifiée qui fait la crainte de certains au niveau de cette population blanche?
En insistant sur le fait que l'Amérique ne sera plus blanche, on veut mettre les blancs américains en face d'une certaine réalité. Toutefois, pour les mettre devant cette réalité, il faut aussi parler de l'histoire. Et parler de l'histoire, c'est une histoire vraiment très dure, qui a été extrêmement dure vis-à-vis des Native Americans, des Amérindiens, et vis-à-vis des Noirs américains. Et ça, il faut en parler. Il faut que chaque blanc américain, noir américain, américain de toute origine, puisse connaître cette histoire de façon très intime et connaître les dates, et que ce ne soit pas une histoire qui soit une histoire triomphaliste. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui prévaut dans le discours américain, c'est une histoire triomphaliste. Qui montre l'immigré venant d'Europe avec des idées extraordinaires et qui vraiment façonne la nation. Or, rien n'est moins vrai. Il y a aussi la force de toutes les différentes composantes de la nation américaine.
Le docteur Marilyn Sefok de l'Université Howard.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le point sur le dernier attentat terroriste au Burkina Faso, mais aussi sur les nouvelles menaces djihadistes en Afrique. Pourquoi le Burkina est-il visé? Quels sont les autres pays désormais pris pour cible? Les États africains ont-ils les moyens de lutter contre les groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
En Sierra Leone, après 3 jours de pluie torrentielle, des torrents de boue ont envahi les rues lundi, faisant plus de 300 morts. Des corps sont encore ensevelis sous la boue et les secouristes essayent de venir en aide aux milliers de survivants sans abri. Sur le dernier bilan de cette catastrophe naturelle, Idriss Fall fait le point avec Aurélie Lachan, porte-parole du CICR à Genève.
Selon les dernières informations reçues, le bilan fait état de à peu près 300 corps qui ont été retrouvés. Les autorités ont déjà commencé à identifier des corps, à enterrer des corps qui avaient été identifiés, à peu près 140 corps. Appellent la population à identifier d'autres corps qui se trouvent à la morgue, qui est surchargée, afin d'enterrer d'autres corps le plus vite possible. On parle encore d'à peu près 650 personnes disparues. Alors, en ce qui concerne les survivants, il y aurait 5000 personnes affectées. On parle de beaucoup de personnes qui sont déplacées, qui sont accueillies dans des maisons d'accueil, enfin chez des familles d'accueil. Des centaines de maisons ont été endommagées ou détruites. Ouais. Le bilan pourrait s'alourdir.
Et comment se fait-il justement que ce bilan soit si lourd, plus de 300 personnes tuées?
Enfin, ces personnes ont fait face à une catastrophe naturelle. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement, analyser exactement ce qui s'est passé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la Croix-Rouge de Sierra Leone est actuellement sur le terrain pour essayer d'identifier, de retrouver des survivants, d'identifier les corps, en fait, et s'occuper des dépouilles mortelles le plus vite possible. Nous fournissons également une assistance médicale aux survivants. Actuellement, il y aurait une centaine de blessés à l'hôpital. Apparemment, les hôpitaux et la morgue sont surchargés. Donc, il y a de nombreux besoins.
Et que fait le CICR?
Alors, le CICR a envoyé une équipe hier pour appuyer nos collègues du mouvement de la Croix-Rouge qui sont sur place depuis le début. Et nous allons travailler pour l'identification des corps, pour la réunification des survivants avec leurs familles. Beaucoup de personnes ont été séparées pendant cette catastrophe, il y a beaucoup de disparus, donc voilà, nous allons aider dans ce travail et nous allons aussi évaluer s'il y a d'autres besoins, nous sommes prêts à appuyer nos collègues du mouvement de la Croix-Rouge.
Et après des inondations, il y a aussi risque d'apparition de maladies.
Oui, en effet. Alors pour l'instant, la situation, le travail se concentre sur l'identification des corps et essayer de retrouver des survivants, mais il y a beaucoup de besoins, notamment dans tout ce qui est accès à l'eau potable, soins de santé. Les infrastructures ont été endommagées et détruites, donc il y aura beaucoup de travail.
Aurélie Lachon, porte-parole du CICR à Genève. $2,7 millions d'euros, c'est le montant que Ahmad Al-Fakki Ahmadi doit payer pour la réparation des victimes. C'est ce qui ressort de l'ordonnance prononcée ce matin par la Chambre de la première instance de la Cour pénale internationale. C'est pour soulager les souffrances causées par le crime grave commis par le responsable de l'attaque des bâtiments historiques et religieux à Tombouctou. Notre correspondant Mamadou Bokoum est à La Haye.
Cette audience de réparation n'aura duré qu'une demi-heure. La chambre de la première instance de la Cour pénale internationale a rendu son ordonnance. Ordonnance selon laquelle Ahmed Al-Fakki Al-Mahdi doit verser 2,7 millions d'euros, soit plus d'1,7 milliard de francs CFA aux victimes. Le juge Raoul Palanga est le président de la chambre.
Monsieur Al-Mahdi, après avoir additionné les responsabilités financières associées aux différents types de préjudices causés par votre crime, la Chambre fixe à 2,7 millions d'euros le total de votre responsabilité financière. Ahmed Al-Mahdi est responsable à hauteur de ce montant au titre des dépenses qui seront engagées pour les réparations individuelles et collectives.
Ces réparations concernent trois catégories de préjudice, l'endommagement des bâtiments historiques et religieux attaqués, les pertes économiques indirectes et le préjudice moral, d'où la satisfaction de l'avocat des victimes, Maître Mayombo Kasongo.
La réparation prononcée ce matin est à la hauteur du préjudice subi, 2,7 millions d'euros bien sûr, qui sont à la charge du coupable pour revenir à la réparation du crime grave qu'il avait commis. Nous avons l'État malien qui a reçu aussi réparation 1 euro symbolique. Nous avons aussi l'UNESCO qui a reçu réparation d'un euro symbolique. Et nous avons les 139 victimes en totalité qui vont recevoir les 2,7 millions d'euros. C'est une victoire des victimes de Tombouctou, des victimes du Mali, des victimes de la communauté internationale et des victimes dans leur ensemble tout entier.
Par contre, la défense n'a pas fait de commentaires sur l'ordonnance. La Chambre laisse au fond des ressources des victimes jusqu'au 16 février 2018 pour déposer son projet de plan de mise en œuvre. Un projet qui expose les objectifs, les résultats et les activités nécessaires. Mamoudou Bokoum à La Haye pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, la hiérarchie de l'église catholique de N'Djamena dénonce l'occupation anarchique d'un terrain qui lui avait été octroyé pour la construction d'une basilique. Ce terrain béni par Mgr Mathias Ngar-Terry, chef de l'église catholique du Tchad peu avant sa mort, est occupé aujourd'hui par les vendeurs de sable, de gravier, de briques et de voitures d'occasion. Le point avec André Kodmadjingar.
C'est un espace d'une superficie de 960 mètres carrés situé dans la commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, au bord du fleuve Chari, qui a été cédé à l'église catholique du Tchad par l'État tchadien. La première pierre pour la construction de la basilique pouvant accueillir un grand nombre de fidèles comme les premières églises chrétiennes a été même posée par le président de la République Idriss Déby Itno le 5 avril 2013. La construction de cette basilique serait faite sur le financement de l'État tchadien, mais 4 ans après, les travaux n'ont toujours pas commencé à cause de la crise économique et financière que traverse le pays. Dès lors, le terrain est exploité à d'autres fins. Djitangar Gedbe Edmond, archevêque de N'Djamena, dénonce cette pratique.
Le terrain est aujourd'hui squatté par des marchands de sable, de gravier, des briques fabriquées en creusant le sol même du terrain et des vendeurs de voitures d'occasion. Nous y avons déjà célébré la bénédiction des rameaux le 9 avril 2017. Une croix a été ensuite plantée comme premier signe pour marquer le caractère sacré de ce lieu. Mais les marchands de sable n'en ont pas fait cas.
Pour beaucoup de fidèles catholiques, ce petit commerçant, vendeur de produits de carrière et véhicule d'occasion exploite ce site sacré avec la complicité des autorités de la commune du 7e arrondissement municipal de la ville. Le premier maire de la dite commune, Dr. Alaïssam Siad Madi, donne les raisons qui ont amené son institution à exploiter cet espace.
Aussitôt après la pose de la première pierre, nous avons enregistré 7 cas d'assassinat dans cet espace. Mon titulaire de l'OPOC a mené une réflexion avec certains cadres. Il est question qu'on l'exploite provisoirement en attendant la décision de construction de la basilique pour éviter les défécations à l'air libre et les différents cas d'assassinat. Mais on s'est rendu compte que cette décision a profité l'installation de certains marchands en désordre.
Le maire de la commune du 7e arrondissement informe par ailleurs qu'avec l'interpellation de l'archevêque de N'Djamena, ils seront délogés de force. Car, précise-t-il, sur instruction du gouverneur de la région de N'Djamena, l'ordre a été donné 2 fois de suite à ces exploitants de quitter le lieu.
Malheureusement, ils sont têtus et sont restés jusqu'à là. Donc actuellement, ils se sont installés dans l'illégalité. Ce qui nous reste à faire, je crois que si nous trouvons un petit moyen pour louer une niveleuse, nous serons dans l'obligation d'aller utiliser les graviers autres là pour niveler le terrain et les faire partir de force.
Et pourtant, ces exploitants payent des droits de place. Mais à qui profite cet argent? Personne ne répond. André Kodmadjingar N'Djamena, VO Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu African Music, des anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Oh, yeah.
Eloki Oyo traduisait cette chose-là, une sélection de Georges Léonard Sagno. C'est Fali Poupa. C'est avec cette sélection donc, que nous mettons fin à cette édition du Monde aujourd'hui. Adreos Regus était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.